Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agathe Kakaoui. C'est l'heure du journal de ce mardi 11 juillet 2023. Tout d'abord, les titres. Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, qu'Eli Ngomirakiza a été enlevé. Il était représentant communal du parti CNL à Mutimbuzi, en province Bujumbura. Dans une lettre ouverte, le Fokode demande au chef de l'État d'intervenir personnellement pour faire actionner une enquête crédible. Et puis, comment répondre aux besoins de la population sans une politique nationale de celle-ci? C'est la question que se pose l'ONG Parsem à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la population avec des propositions de solutions à la clé. Dans ce journal, l'on parlera également de ce phénomène de vol lugubre à Muyinga. Les tombes du cimetière d'Okinyota, en commune Muyinga, sont régulièrement profanées. Les croix métalliques sont les plus visées et sont arrachées pour être revendues. Vous suivrez le reportage dans ce journal. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Le chef de l'État devrait ordonner une enquête crédible et sérieuse sur la disparition forcée d'Eli Ngomirakiza, représentant communal du parti CNL à Mutimbuzi dans la province Bujumbura. Hier, le 10 juillet, bouclé exactement 2 ans que son responsable politique est introuvable. Cet appel figure dans une correspondance que le Forum pour la conscience et le développement, à travers sa campagne Ndondeza, a adressée à Evariste Ndayishimiye ce lundi. Pour Pacifique Ninina Hazgwe, président du Fokode, le chef de l'État dispose de tous les pouvoirs pour actionner cette enquête. Cet activiste des droits humains regrette que rien n'ait jusque-là été fait alors que cette disparition a fait beaucoup de bruit. Le contenu de cette lettre avec Bonfils Niongele.
Selon le Forum pour la conscience et le développement, les circonstances de l'enlèvement d'Eli Ngomirakiza, membre du parti CNL, ont été clairement évoquées par plusieurs sources dans les heures et les jours qui ont suivi son enlèvement. Eli Ngomirakiza avait passé toute la journée du 9 juillet 2000 à Maramvya, en commune Mutimbuzi, en train d'embarquer dans un camion ben des briques qu'il devait fournir à son client à Kanyosha. Pacifique Nazwe, il est le président du Forum pour la conscience et le développement Fokode en sigle.
Eli Ngomirakiza se trouvait à bord d'un camion ben qui transportait ses briques qu'il allait fournir à son client à Kanyosha, au sud de Bujumbura. C'était aux environs de 16 heures, lorsque une moto s'est arrêtée brusquement devant son camion, et juste après, il est arrivé un pick-up immatriculé à 031, un pick-up qui a été identifié comme le véhicule de fonction du lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye, qui à l'époque était le commandant du bataillon 212 qui était basé à Rukoko. À bord de ce pick-up se trouvaient des personnes en tenue de l'armée burundaise. Un administratif de la zone Maranja aurait également identifié parmi les personnes à bord de ce pick-up.
Face à ce mur du silence et de l'inaction de toutes les institutions du pays, il n'y a plus que l'autorité du président Evariste Ndayishimiye pour ordonner une véritable enquête sur la disparition forcée d'Eli Ngomirakiza.
Nous avons informé le président de la République qu'il était la seule autorité aujourd'hui pouvant déclencher une enquête sur la disparition forcée d'Eli Ngomirakiza. Nous nous sommes fondés sur les déclarations que ne cesse de faire le président Ndayishimiye et sur son attachement à la justice burundaise. C'est un président qui, à un moment, a versé des larmes à la place des Burundais qui subissent des injustices dans le système judiciaire burundais. Notre correspondance sera un test sur la volonté réelle du président d'apporter des changements dans la justice burundaise et de mettre fin à ces violations graves des droits humains.
Le Fokode souligne qu'il va poursuivre cette démarche sur d'autres cas de disparition forcée des victimes. Il ne cessera pas d'écrire au président de la République pour que désormais il puisse encore dire qu'il n'y a pas d'informations sur ces cas de disparition forcée au Burundi.
Bon fils, Niongele, merci. Le LUCOM persiste et signe. Les membres du gouvernement doivent déclarer leurs biens. Un acte qui, pour l'organisation, pourrait participer à réduire drastiquement la corruption. Car aujourd'hui, comme le précise Gabriel Ushiri, président de l'Observatoire l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Aujourd'hui, le Burundi est classé 171e pays parmi les 180 les plus corrompus dans le monde. Il l'a dit ce mardi 11 juillet, à l'occasion de la célébration des 20 ans de la signature des accords de lutte contre la corruption par les pays africains. Le LUCOM a organisé aujourd'hui un point de presse à ce sujet. On l'écoute.
Selon les institutions internationales, ici je vais citer Transparency International, l'Afrique, malheureusement, après 20 ans d'existence de la Convention africaine contre la corruption, il n'y a pas eu des avancées significatives en matière de lutte contre la corruption en Afrique. Mais je dois vous dire que plusieurs institutions au niveau mondial évaluent la lutte contre la corruption des États. C'est par ailleurs des critères pour débloquer le financement qui sont octroyés aux États en voie de développement. Juste, je vais commencer en 2005. Vous le savez qu'avant 2005, on était dans une guerre civile. C'est à partir de là qu'on a commencé à penser au développement, à la stabilité des institutions, etc. etc. Depuis 2005, à ce jour, en tout cas le Burundi a continué à chuter selon les indicateurs de Transparency International. Tenez, en 2005, le Burundi quittait la 130e position sur à peu près 167 États avec 23% de points. En 2022, donc l'année passée, le Burundi occupe 171 pays sur 180 à peu près avec 17% de points. Donc vous voyez qu'on a chuté sensiblement en matière de lutte contre la corruption. Cette convention africaine est une convention importante. Ici, je vais évoquer certaines infractions que la convention évoque. J'évoque l'enrichissement illicite, aussi le branchement du produit de corruption. La convention évoque aussi l'accès à l'information. En fait, l'un des points pour lutter contre la corruption, c'est autoriser les médias et la société civile d'accéder à toutes les informations qui peuvent cacher la corruption. Conséquence de la corruption. La corruption sape l'état de droit et favorise l'anarchie dans le pays. La corruption rend le secteur public égoïste et provoque la maladie de la kleptomanie et de la boulimie du pouvoir. Comme voudrait émettre quelques recommandations, considérant les dangers de la corruption, nous voulons demander au secteur public de déclarer le patrimoine. Nous demandons aussi au mandataire public de respecter le principe des incompatibilités.
Il est nécessaire de mettre en place une politique nationale de la population burundi, parce que la situation actuelle de la démographie est alarmante. Appel lancé par l'ONG locale Parsem à l'occasion de la Journée mondiale de la population, célébrée le 11 juillet. Faustin Dikoumana, directeur national de la Parsem, doute des capacités du Burundi de faire face aux besoins de la population sans une planification conséquente. Suivez.
D'abord, cette journée arrive au moment où le pays, le Burundi, compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Si ce n'est pas le premier, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un PIB par habitant des fois inférieur à $300, le dernier au monde. L'inflation des produits alimentaires est devenue une hantise. Et le taux de fécondité actuellement arrive à plus de 5 enfants par femme, avec environ moins 0,5 hectare de surface cultivée par ménage. 30% de la population sans terres agricoles. La croissance de la population dépasse la croissance des produits alimentaires, de la production alimentaire et de la croissance économique en général. D'où la malnutrition actuellement à pignon sur rue. Actuellement, au niveau des standards sur l'éducation et la santé, et le nombre d'élèves et de population dans les classes, le nombre d'habitants par médecin dépasse les chiffres, les standards de l'OMS. Et la pression est devenue énorme sur l'environnement suite à cette surpopulation. La population rurale est autour de 90%. Donc, il y a plusieurs défis liés à la vie de la population actuellement au Burundi. Mais certes, nous avons une vision. Burundi est mesure 2040, Burundi développé 2060, avec réforme annoncée du budget programme. C'est pour cela que le gouvernement devait s'attirer à mettre sur la politique nationale de population. Elle a été annoncée, mais nous voulons le lancement officiel d'une politique nationale de population. Le recensement général qui a été annoncé devait être fait pour connaître l'état des lieux de la vie de la population en général et puisse projeter dans l'avenir. Parce qu'on doit aboutir à répondre à ces questions. Nous voulons une population qui se reproduit à quel rythme, qui a quel revenu, qui mange combien de fois par jour, quelle quantité, quelle qualité, quelles conditions de scolarité, quelles conditions de santé, situation sanitaire et hygiène, équipement, est-ce qu'on dort sur une natte ou un matelas, l'accès à l'électricité, à l'internet, quel taux d'urbanisation, le réseau routier, quel état du réseau routier, accès à la justice, participation publique. Si on dit au moins où se remet fungura, c'est à quelle quantité, à quelle qualité, et où on se remet à quel revenu, quel niveau de revenu, il faut une clarification de ces politiques parce que, en fin de compte, tous ces programmes sont censés être en faveur du changement de vie de la population.
Inzamba.
Il y a de l'espoir que l'État et les travailleurs récemment mis en retraite trouvent un terrain d'entente. C'est ce qu'indique Sylvestre Nibanonganya, président du comité du dialogue social. C'est suite à la grogne des syndicats des travailleurs de l'enseignement et de la santé qui se sont opposés au départ de leurs membres à la retraite à l'âge de 60 ans. Sylvestre Nibanonganya assure que le conseil se tient prêt à intervenir si les différentes parties au conflit le sollicitent. Il l'a dit au micro de nos confrères de la radio-télévision Isanganiro.
Pour que l'opinion comprenne bien, il faut d'abord que je définisse ce que c'est effectivement le CNDS, c'est le Comité National de Dialogue Social. Et c'est un comité qui réunit trois partenaires importants du monde du travail, à savoir le gouvernement, qui est à la fois considéré comme employeur, parce que le gouvernement aussi a des normes personnelles à son service. Mais le gouvernement est aussi le régulateur national, c'est celui qui élabore les lois, c'est celui qui les applique, etc. C'est le premier, le gouvernement. Ensuite, il y a l'association des employeurs du Burundi. Et enfin, il y a les travailleurs. Alors, quand il y a un problème tel que celui que vous posez, qui est là devant ses partenaires, soit ils le résolvent entre eux-mêmes à travers le dialogue ou à travers les mécanismes qui sont prévus par les lois, soit alors ils peuvent recourir au service du CNDS. Aujourd'hui, la question que vous posez, effectivement, je l'entends comme les autres, mais je pense qu'il y a peut-être un rectificatif au niveau de la loi. La loi aujourd'hui au Burundi, si je me réfère à ce qui a été dernièrement décidé, considère qu'on entre à la retraite à l'âge de 60 ans. Et je pense que c'est peut-être là la raison qui fait qu'il y a des gens qui n'étaient pas préparés à entrer à 60 ans et qui considèrent qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Aucun des acteurs concernés, des partenaires concernés, en l'occurrence aujourd'hui ici, le gouvernement du Burundi et les travailleurs, personne ne nous a pas encore saisi. Le ministre et le travail dans ses attributions est aujourd'hui attaché à trouver une réponse à cette question. Nous attendons pour voir ce à quoi ça va aboutir. Et là, au niveau du CNDS, au niveau du bureau du CNDS, nous attendons et le moment opportun, on pourra prendre une décision sur ce qu'il faudrait essayer de faire. Mais nous croyons que les deux partenaires, le gouvernement et les syndicats intéressés par le monde du travail, vont trouver une solution adéquate à cette question. Et le message, c'est d'abord de lire correctement les lois qui régissent le monde du travail.
Et pour terminer, la profanation des tombes dans le cimetière de Kinyota, en commune et province Muyinga, devient de plus en plus fréquente. Ce vandalisme se caractérise surtout par les croix métalliques qui sont arrachées puis revendues. Deux enfants de 10 et 12 ans ont été surpris avec une croix qu'ils venaient de prendre. L'administrateur de la commune Muyinga demande à la population de cette colline d'être vigilant pour attraper ces malfaiteurs. Pierre Gawungu, reportage.
Deux enfants âgés de 10 à 12 ans ont été déjà appréhendés samedi dernier avec une croix métallique arrachée sur une tombe au cimetière de Kinyota en commune Muyinga. Ces croix sont par la suite vendues à la première avenue du quartier Swahili. Une veuve, dont la tombe de feu son conjoint a été endommagée, se dit très choquée et s'insurge contre ce manque de respect pour les morts. L'administrateur de la commune Muyinga, Amédée Misago, condamne fermement cette criminalité. Il exhorte la population de la colline Kinyota à redoubler de vigilance pour arrêter ces criminels.
Ça fait vraiment mal. Et c'est même choquant. Cela prouve à suffisance qu'il n'y a plus le respect des morts. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la population de la colline Kinyota, sans aucune exception, d'être l'œil de l'administration. Si une fois elle voit une personne en train d'arracher ses croix, qu'elle soit appréhendée immédiatement et remise dans les mains de la justice pour qu'elle réponde à l'acte posé.
Cette criminalité ne se manifeste pas pour la première fois dans ce cimetière. À côté de l'arrachage de ces croix, des carreaux ont été dans un passé proche enlevés sur les tombes.
Pierre Gahungu, c'est par vous que se termine cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci, surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.